BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission. On est ensemble pendant une demi-heure avec un programme chargé, rendre les managers heureux. Tout un programme, c'est la mission du DRH de la semaine, Hugo Perrier pour l'éditeur de logiciels de support Partout. Il va venir nous raconter comment il s'y prend. Dans 10 minutes, vous en avez l'habitude, c'est la séquence service de notre émission. Avec vous, Jeanne, et un avocat en droit du travail qui répond aux questions de nos auditeurs.
Oui, bonjour Erwan. Aujourd'hui, l'avocat Paul Van Dess nous dit s'il est obligatoire de former ses salariés. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyblow@bfmbusiness.com.
Comment prendre en charge l'anxiété de ses équipes au travail? C'est le dossier du dernier numéro du Harvard Business Review qu'on vous décrypte avec sa rédactrice en chef adjointe Caroline Montaigne avec nous tout à l'heure et le psychologue du travail Adrien Chignard. Et puis la carte blanche de Stéphane Moriou en fin d'émission qui défend le droit à l'erreur, oui, mais avec parcimonie. Vous verrez ça. Merci d'être avec nous, c'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
C'est un groupe qui aide les entreprises à se rapprocher de leurs clients. Partout a été créé il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 400 salariés présents dans 60 pays et plus de 8000 clients. Et côté RH, l'un des objectifs de l'entreprise, c'est de rendre ses managers plus heureux. Tout un programme. Bonjour Hugo Perrier.
Bonjour Erwan.
Et c'est vous qui êtes en charge de ça, puisque vous êtes le DRH de Partout. La question du bien-être au travail, d'abord, on en parle largement dans cette émission. Hein. C'est un peu la ligne d'Happy Boulot. C'est tout un programme pour vous en tant que DRH. Comment vous considérez cette question?
Parfois, on oublie que les managers sont des salariés comme les autres. Et une de mes obsessions, c'est de faire en sorte de m'occuper de tous les salariés, mais aussi de s'occuper très très bien des managers qui accompagnent eux-mêmes des salariés. Et du coup, on essaie de mettre en place pas mal de dispositifs chez Partout pour accompagner ça.
Est-ce qu'il y a beaucoup de managers chez vous?
On a 60 managers pour 400 salariés. Donc on a pas mal investi sur nos managers pour faire en sorte qu'ils accompagnent au maximum 6 personnes. Généralement, c'est entre 3 et 6 personnes.
Oui, c'est quand même un ratio qui est assez important.
Ouais.
Ouais. Alors, quelles sont les mesures que vous mettez en place? Comment est-ce qu'on applique cette volonté de prendre en considération le bien-être des salariés, et particulièrement des managers, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Rendre les managers heureux, en gros, ça passe par quoi?
Alors, ça passe par plusieurs choses. Une des mesures qui est très importante et qu'on applique chez Partout, c'est chaque trimestre de demander l'avis aux managers et à tous et toutes les salariés de l'entreprise. C'est important pour tout le monde et c'est important pour les managers.
L'avis sur quoi?
Leur avis sur leur satisfaction dans l'entreprise. On a 5 questions et une qui revient à chaque fois qui est ma recommandation en fait. À quel point je suis satisfait de mon expérience chez Partout. Et c'est précieux pour nous en tant que RH, mais c'est précieux pour les managers, ouais, pour pouvoir encore mieux accompagner leurs équipes. Et c'est de là où on tire pas mal d'idées, ouais, sur comment améliorer le bien-être des managers et des équipes.
C'est anonyme?
C'est anonyme, bien, ouais, sûr. Ouais.
Donc on peut être libre de dire vraiment ce qu'on pense.
Et absolument. Moi, je lis toutes les réponses anonymisées et on les analyse et on partage aussi toutes ces réponses-là aux managers concernés.
Typiquement, quelles mesures vous avez pu prendre après ces retours trimestriels?
Mais un de nos gros chantiers de l'année 2024, c'est la formation. En 2023, on a eu plusieurs fois des remontées de collaborateurs qui étaient inquiets sur le fait que l'univers dans lequel on évolue, la tech, on est un logiciel au service de commerçants, évolue très très vite. Il y a l'intelligence artificielle qui a vraiment déboulé dans nos vies l'année dernière, et il y avait cette inquiétude sur mon employabilité et à quel point je vais avoir des perspectives pour grandir dans l'entreprise mais aussi ailleurs. Et c'est là où les managers nous ont beaucoup aidés, parce qu'on a décidé de miser sur eux, ouais, pour notre stratégie de formation. C'est-à-dire que c'est une grande partie des managers eux-mêmes qui sont des formateurs sur des sujets comme donner, recevoir du feedback, gérer son stress ou communiquer en communication non violente, par exemple.
Est-ce que les managers eux-mêmes sont aussi formés régulièrement?
Absolument. En fait, on a une responsable formation chez Partout qui accompagne spécifiquement la communauté managériale. Chaque trimestre, il y a des formations en direct avec des ateliers, que des mises en situation, et aussi une plateforme de e-learning dans laquelle ils peuvent se former par eux-mêmes. Et ensuite, quand ils souhaitent devenir ce qu'on appelle des insiders, c'est-à-dire des experts en interne, elle les forme aussi à la facilitation, ce qu'on appelle train the trainer, pour qu'ils puissent eux-mêmes former d'autres personnes en interne sur certains sujets.
Que le manager puisse devenir formateur, ce qui est aussi valorisant dans ces métiers-là, de pouvoir accompagner et former soi-même.
C'est très valorisant, absolument. Et il y a un autre bénéfice à ça, c'est que les études montrent que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, de transmettre. Donc ça a cette vocation de, eux, renforcer leur expertise, mais aussi de légitimer auprès de leurs équipes leur rôle d'expert, soit sur les sujets techniques, soit sur les sujets managériaux.
Et monter en compétences également, parce que quand on est manager, on peut parfois avoir peur d'avoir un plafond au-dessus de nous. Bah, on manage, bah voilà, et finalement, on ne sait pas comment on va pouvoir évoluer. Vous apportez des réponses à ça ?
C'est très juste, surtout dans une start-up tech comme nous, le métier évolue chaque année. Ouais. Ça évolue très vite, donc il faut pouvoir garder le rythme. Donc ces formations permettent aux managers et aux autres de pouvoir maintenir leur employabilité dans l'entreprise, mais même au global. Moi, je dis souvent, ma grande fierté, c'est quand des gens partent de l'entreprise, qui montent leur propre entreprise ou qu'ils atteignent une étape encore plus importante dans leur carrière. Donc pour nous, on se voit aussi comme une académie pour former les gens à la suite de leur parcours.
Je vois que vous résumez en 5 mots votre culture d'entreprise, à savoir l'empathie, la curiosité, la simplicité, l'ambition, mais avant tout, le fun. C'est quoi être une entreprise fun ?
Alors ça, c'est la valeur la plus historique de partout. Et c'est vrai que les valeurs, c'est souvent des mots un peu galvaudés, oui, qu'on retrouve. Moi, je suis passé pas mal de temps dans les grands groupes et je voyais souvent les mêmes mots. Et au départ, j'ai été étonné de voir que le fun faisait partie des valeurs de partout. Et en fait, c'est une capacité à se rappeler qu'on est généralement 7-8 heures par jour en entreprise et qu'on est aussi là pour faire des bonnes rencontres, pour se faire plaisir et essayer de dédramatiser. On ne sauve pas des vies chez partout, on aide les commerçants à améliorer leur business, leur visibilité, et ça nous rappelle aussi qu'on essaie de le faire en s'amusant. Je parlais de la formation, on essaie de mettre beaucoup d'interactivité, on essaie de mettre des jeux, on essaie de mettre de l'humour dedans, et dans la plupart des sujets, c'est assez approprié. Donc on essaie de maintenir cette valeur de simplicité humaine.
Là-dessus, vous avez des retours positifs ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, quelle entreprise n'a pas envie d'être un petit peu fun, quoi ? Quand on sait, notamment dans un secteur comme le vôtre, la tech, où on se bat pour avoir les talents, est-ce qu'on vous dit dans les retours que oui, on prend plaisir à venir au travail ? Est-ce que vous pouvez le mesurer, ça aussi ?
Alors justement, en plus, c'est l'enquête qu'on vient de sortir au premier trimestre. Et le facteur le plus positif, c'est j'aime travailler avec mon manager, j'aime mes collègues, j'aime l'ambiance. C'est les choses qui remontent le plus. Donc, on voit que c'est un facteur de rétention et de motivation. Mais c'est un gros investissement pour nous. C'est des rituels en équipe qui sont très fréquents, des budgets pour des team building et de l'affichage, des événements au bureau qui sont très fréquents pour maintenir cet aspect de tribu qui marche très bien chez nous.
C'est de l'investissement derrière.
C'est de l'investissement.
Mais ça paye.
Et ça paye.
Vous y trouvez un intérêt forcément économique derrière, à ce que les gens soient heureux et envie de rester, ce que vous avez envie de garder.
Mais économique et humain, à titre personnel, je suis très content d'être dans une entreprise où on peut sourire, on peut s'amuser, on peut voir les gens en dehors du travail. Et bien sûr, il y a toujours le côté économique, mais c'est avant tout le fait de passer la moitié de son temps éveillé dans un univers qui nous va bien, en fait.
Hugo Perrier, DRH de partout. Il nous reste une minute pour savoir un peu mieux quel manager et DRH vous êtes. C'est Patrice qui vous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle je vous invite à piocher deux papiers. Une phrase à compléter, c'est l'exercice habituel dans Happy Boulot pour savoir un peu mieux quel DRH vous êtes. Je vous laisse nous la lire.
D'accord. Wow.
Un à la fois.
D'accord. Dans ma boîte, j'aime m'occuper de... Alors, la première réponse qui me vient, c'est les gens.
Ouais. Métier. Hein.
C'est mon métier.
C'est alors, le cœur des ressources humaines.
Pour aller un petit peu plus loin, c'est faire en sorte que d'abord, ils aillent bien. Et ça, c'est dans une boîte qui grandit très vite, c'est une source d'inquiétude.
Mais de manière pratique, de quoi vous voulez vous occuper ? Vous aimez vous occuper ?
Pour moi, je dirais d'abord ça, c'est de faire en sorte que la santé mentale de mes collaborateurs soit au top.
Et ça passe par quoi ?
Nous, on a un programme de santé mentale avec un partenaire qui s'appelle Moka, qui permet de former les gens sur leur santé mentale, de se responsabiliser dessus. Et j'ai une équipe qui est formée à accueillir la parole, détecter les signaux faibles.
Donc ça vous tient à cœur ?
Ça me tient à cœur.
Allez, on prend un dernier papier.
Ouais.
Une autre phrase à compléter.
J'en ai pioché 3 en même temps.
Donc, vous êtes gourmand.
Je vais prendre le deuxième. Dans ma boîte, les entretiens avec les salariés, c'est tous les... en trimestre, mois, semaine. Chez nous, c'est tous les trimestres.
Ouais, ça vous l'avez dit, ouais.
Exactement. On a des entretiens qui sont trimestriels avec les managers. On a aussi, dans certaines équipes, des séquences mensuelles. Mais l'entretien trimestriel, il est clé parce qu'on regarde les objectifs de manière trimestrielle pour rester très dynamique.
Pourquoi mensuel avec certaines équipes ?
Alors, il y a certains managers qui aiment en plus avoir du feedback, parce qu'ils travaillent beaucoup en mode projet, avoir du feedback chaque mois sur l'avancée des projets. Et donc, on essaie d'aller plus loin dans certaines équipes.
Ça, vous y répondez donc favorablement.
Bien sûr. Ouais. Bah, les initiatives des managers, généralement, sont assez bien accueillies quand elles sont utiles pour leurs équipes.
Merci beaucoup, Hugo Ferrier, d'être venu dans Happy Boulot et d'avoir joué le jeu des RH de partout. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on joint tout de suite Paul Vandes, avocat associé chez Vaughan Avocat, pour répondre à cette question. Des collaborateurs sollicitent très souvent des formations, d'autres jamais, mais RH me disent que certains refusent même. Ai-je une obligation de former tous mes salariés et comment dois-je faire en cas de réticence, voire de refus ?
L'employeur a une obligation générale de formation. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. On doit nécessairement, tout au long du contrat de travail, former ses salariés. Ça veut dire que lorsqu'un salarié ne sollicite rien, voire refuse, eh bien on doit lui imposer des formations tout au long du contrat de travail. À défaut, l'employeur pourra être condamné pour manquement à son obligation de formation.
Merci Paul Vandes, avocat associé chez Vaughan Avocat. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Diriger des équipes anxieuses, c'est le dossier du dernier numéro du Harvard Business Review que j'ai entre les mains. Et pour en parler, nous sommes bien sûr cette semaine avec Caroline Montaigne. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Merci de revenir nous voir. Je vais très bien, c'est Happy Boulot. Alors forcément, on va bien tous les week-ends. Je rappelle Caroline que vous êtes la rédactrice en chef adjointe de cette revue spécialisée dans les sujets de management qui sont largement abordés dans ce numéro. On va y venir. Et face à vous, Adrien Chignard. Bonjour Adrien.
Bonjour Erwan.
Vous êtes psychologue du travail. Merci d'être là. Je vais me tourner vers vous dans un instant. Mais d'abord, Caroline, on parle de plus en plus de santé mentale en entreprise. On l'aborde beaucoup dans cette émission. C'est un sujet que les managers doivent être capables aujourd'hui d'apprivoiser, de traiter comme un psychologue.
De reconnaître et agir dessus, effectivement. Oui. Effectivement, et c'est la nouveauté, c'est qu'auparavant, je pense, peut-être avant le Covid, parce que le Covid a accentué ça, on faisait une distinction très claire entre vie privée et vie professionnelle. On laissait les états d'âme, la santé mentale à la porte de l'entreprise. Et c'est vrai qu'après, avec la pandémie, il y a eu une confusion.
On a vu d'ailleurs que pendant la pandémie, il y a beaucoup de managers qui étaient complètement désemparés et qui avaient du mal à communiquer avec leurs équipes.
Parce que c'était complètement nouveau.
Parce que voilà.
Et puis surtout, en fait, nos appartements, nos maisons devenaient aussi des bureaux. Et oui. Finalement, il y a une capillarité beaucoup plus importante qu'auparavant entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on demande aux managers aujourd'hui de prendre en compte cette santé mentale, cette santé psychologique et le bien-être des salariés, ce à quoi il n'est pas habitué, ce à quoi il n'est pas formé. Et surtout, il y a l'arrivée de ces générations X et Y qui, eux, sont beaucoup moins... surtout Y et Z, vous avez absolument raison, qui, eux, ont moins de problèmes pour parler de santé mentale et qui attendent que l'entreprise prenne en compte ce sujet et donc le manager également. Donc, évidemment, il ne doit pas se substituer à un thérapeute. Il ne doit pas faire office de psychiatre ou de psychologue. Mais effectivement, aujourd'hui, on attend de lui qu'il prenne en compte le bien-être des salariés et leur santé mentale s'il y a un problème, effectivement, au sein des équipes.
Adrien Chignard, il faut avoir donc de nouvelles compétences aujourd'hui quand on est manager. On n'a plus le choix.
En fait, l'idée, c'est de développer des compétences déjà dans la détection et l'identification des signaux faibles d'une personne en difficulté. Bien sûr que le manager va pas demain devenir un psychiatre ou un psychologue, ça n'est pas ce qu'on lui demande, mais sa responsabilité au manager, c'est de détecter précocement les difficultés pour ensuite pouvoir les prendre en charge, en faisant attention quand même à pas vouloir devenir le super-héros de la santé mentale, parce qu'on peut devenir ce que les Américains appellent un toxic handler, c'est-à-dire un preneur de la toxicité dans la relation. On va détecter les signaux faibles, on va prendre en considération, témoigner de l'empathie, de l'écoute bienveillante, et après on va orienter vers un spécialiste.
Mais ça veut dire que la direction, quand elle choisit de nommer un manager, aujourd'hui elle doit prendre en compte ses traits de personnalité, ou en tout cas si c'est pas quelque chose qui fait partie de la personnalité du manager, il faut qu'il soit formé à ça.
Mais la bonne nouvelle, c'est que la détection des signaux faibles, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. N'importe qui est en capacité aujourd'hui à développer la compétence sur le sujet, si et seulement si, Erwan, l'entreprise, elle présente une lucidité. C'est toujours la lucidité qui nous fait avancer et le déni qui nous ralentit sur les questions de santé mentale.
Mais est-ce que les entreprises aujourd'hui forment à ça ? Parce qu'on forme au premier secours. En santé mentale, on est encore très peu formé, il me semble.
Oui, absolument. On n'est absolument pas formé. Et surtout, dans le milieu anglo-saxon, on l'est davantage parce que de plus en plus d'entreprises adoptent certaines techniques, justement, de suivi un peu de santé mentale des salariés. Ils ont des formations qui sont basées sur, par exemple, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. C'est le cas, par exemple, de KPMG, Uber, Bank of America, Salesforce. Mais globalement, il y a quand même un gros vide pour les managers qui ne sont pas du tout formés à ça. Comme vous le dites, ils sont formés au premier secours physique, et encore, pas toujours, mais à la santé mentale et au bien-être des salariés, absolument pas, non.
Il faut savoir réagir, ne pas juger, c'est ce que vous disiez, Adrien Chénard. Je rappelle que vous êtes psychologue du travail. En même temps, le manager, il ne doit pas sortir de son rôle. Hein. Il n'est ni psychologue, ni médecin. Il doit réussir à garder de la distance, une attitude professionnelle. C'est peut-être là qu'est toute la difficulté.
Alors, ça n'est pas chose simple, mais dès lors que l'on comprend qu'en fait, ce qui va compter, c'est de pouvoir apporter un bon soutien à son équipe. Déjà, considérer une personne qui est en difficulté, ça fait toute la différence. En vrai, et on peut se poser la question à nous-mêmes, quand je vais mal, globalement, je sais plutôt bien ce que je devrais faire. Mais simplement, le fait de m'entendre l'expliquer à autrui, qu'autrui me témoigne de l'intérêt, ça change tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui va mal, il n'a pas tant besoin d'être conseillé que d'être considéré. Ouais. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend la juste place du manager.
Ouais. Il faut aussi, quand on est manager, et donc on demande aujourd'hui d'avoir ses compétences, manager une petite équipe. On était tout à l'heure avec le Hugo Perrier, le DRH de Partout, qui disait, chez nous, les managers, ils encadrent 5-6 personnes. C'est peut-être un modèle qui permet d'être plus attentif à ces signaux-là que quand on en manage une vingtaine.
De toute façon, les études scientifiques, alors moi j'enseigne dans 3 universités, montrent qu'au-delà d'un certain seuil, en fait, la relation se détériore. Et au-delà de 6 à 7 personnes, en fait, on a une relation qui est détériorée, tout simplement parce que le focus attentionnel du manager, vous ne pouvez pas être attentif à tout et attentif à toutes et tous s'il y a un trop grand nombre de personnes.
C'est comme un prof qui est face à 35 élèves, c'est plus difficile que quand il a une classe de 20 élèves. Quoi.
Exactement, ça génère une situation d'attention partagée qui finalement est délétère pour tout le monde et pour la performance business.
Il y a une question de temps aussi, Caroline, parce que c'est du temps que le manager doit attribuer aux salariés pour s'occuper de sa santé
mentale.
Surtout
que c'est du temps qu'on ne prenait pas forcément il y a quelques années, et aujourd'hui on demande au manager de le prendre.
Oui, donc, et on leur demande aussi parfois de forcer le dialogue, parce que pour rebondir sur ce que disait Adrien, quelqu'un qui est en santé mentale un peu faible, ne va pas forcément spontanément aller voir son manager, il ne va pas demander de l'aide. Donc c'est au manager de forcer un peu le dialogue. C'est compliqué à faire pour eux, parce que parfois ils se sentent en indélicatesse d'aborder ce sujet-là avec le salarié. Donc comment doivent-ils le faire? Ils doivent le faire effectivement avec beaucoup d'empathie, pas de compassion. Il ne s'agit pas de souffrir avec le salarié, mais avec de l'empathie, c'est-à-dire comprendre profondément quel est le problème du salarié, et surtout ne pas être dans le jugement. Parce que souvent, quand on a un problème de santé mentale, dans une instabilité psychologique, on a un sentiment de honte en entreprise. Et s'il n'y a pas de jugement, ça peut diminuer ce sentiment de honte.
Et le RH dans tout ça, il fait quoi? Parce que là, on parle du manager, mais c'est quand même aussi le métier des ressources humaines de traiter ces questions-là, non?
Il est loin, le RH.
Ah bon?
Oui, c'est surtout le manager direct qui peut voir ça, parce qu'il s'agit effectivement d'identifier, de reconnaître, de réagir, d'accompagner et d'empêcher surtout les salariés d'être dans ce qu'on appelle un cycle de perpétuation. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un cas précis. Vous avez peur de parler en public. Vous savez que quand vous parler en public, vous avez peur du regard des autres, d'être mis en situation comme ça d'inconfort. Vous allez développer comme émotion des palpitations, du stress, de la transpiration excessive, etc. Et vous savez que vous allez éviter ce genre de situation. C'est ce qu'on appelle un cycle de perpétuation. Et le manager, il doit intervenir justement pour casser ce cycle de perpétuation qui fait que l'anxiété ne fait que grandir, même quand on évite l'obstacle, et qu'on a finalement une très mauvaise image de soi parce qu'on évite l'obstacle. On ne l'affronte pas. Et donc, il doit intervenir à ce moment-là pour changer les schémas négatifs que peut avoir le salarié.
C'est plus tard qu'on va alerter les ressources humaines, peut-être, le manager.
Oui, alors je dirais dans un deuxième temps, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
En fait, la question qu'on nous pose souvent, c'est il faut aller vers qui quand on ne va pas bien? En fait, il n'y a pas de bonne réponse, ou plutôt, il n'y a pas de bonne personne, mais il y a une bonne caractéristique de personne. La bonne caractéristique, c'est aller en direction de celui ou celle qui vous témoigne et à qui vous témoignez de la confiance. Pourquoi je dis ça? Il y a une étude de 2019 qui a été mise en place en France qui montre que 80% des personnes qui vont voir des psys sont des femmes. Une fois qu'on a ôté l'argument misogyne, les femmes ont plein de problèmes, et qu'on se pose véritablement la question, en fait, les problèmes de santé mentale sont très bien répartis entre hommes et femmes. Pourquoi les hommes ne vont pas voir ou demander de l'aide? Un, parce qu'ils ont peur de perdre leur virilité, en admettant qu'ils ont besoin d'aide, et deux, parce qu'il y a un anxiolytique, et c'est le thème de l'émission, extrêmement puissant en France, que vous pouvez acheter tous les 6 mètres à Paris sans ordonnance, ça s'appelle l'alcool. Ouais. Et le problème, c'est que ça marche très très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes font taire leurs symptômes anxieux avec une hyperconsommation d'alcool. Alors, où est la RH là-dedans et comment on fonctionne par rapport à tout ça? Bah, nécessairement, si on oriente déjà en direction d'une personne en qui autrui a confiance, la personne va se sentir écoutée et ça va créer ce qu'on appelle, nous, un climat de sécurité psychologique qui est propice à la performance.
La médecine du travail ou un psychologue du travail, typiquement.
Un psychologue, ouais. Mais aussi vos élus, votre RH, mmh. votre manager. En fait, il y a plein de préventeurs au ouais. travail.
J'aimerais, parce qu'on arrive au bout déjà malheureusement, mais un mot sur la santé mentale des managers. Ouais. Parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus on est isolé par définition. Plus peut-être c'est compliqué aussi de parler des problèmes qu'on peut avoir.
En fait, ce qu'on a vu, c'est une modification des problématiques de santé mentale. Aujourd'hui, on a des managers qui, depuis la situation de Covid-19, sont entre le marteau et l'enclume. On attend énormément du manager et on leur donne des injections de moraline. Tu dois, il faut. Simplement, on a beau être un manager, on reste un être humain en situation de travail. Et moi, c'est pour ça que j'enseigne beaucoup la psychologie de la récupération. On ne peut donner aux autres que ce dont on dispose. Alors, si le manager prend soin de lui, ouais. il saura prendre soin des autres.
Le mot de la fin.
Oui, et puis surtout, il faut qu'il se positionne en soutien, en fait. Il ne faut pas qu'il se focalise sur, par exemple, la perte de productivité temporaire d'un salarié ou les problèmes que doit affronter ce salarié. Il doit se positionner véritablement en soutien.
Parce qu'on rentre dans du micro-management après, petit à petit.
Oui, alors ça, après, oui, et puis jusqu'où va la frontière entre l'intrusion dans la vie privée et les problèmes privés du salarié? C'est ténu, la frontière est ténue et c'est pas facile en termes de positionnement. Souvent, ils ont du mal à se positionner jusqu'où aller, jusqu'où ont-ils droit d'aller aussi par rapport au salarié.
Un dossier donc à retrouver dans le dernier numéro de la Harvard Business Review dont vous êtes rédactrice en chef adjointe Caroline Montaigne. Merci d'être venue dans Happy Boulot pour ce décryptage. Merci aussi à Adrien Chénière, psychologue du travail. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche. Avec Stéphane Moriou, Stéphane, vous nous dites que dans la vie et au travail, bien sûr, on apprend de ses erreurs, mais pour autant, on ne doit pas en faire une règle.
Certains voudraient aujourd'hui nous faire croire qu'il y a plus à apprendre de nos erreurs que de nos réussites. J'aimerais ici démonter l'argument. Imaginez que vous ne connaissiez pas le feu. Quel est le moyen le plus sûr de faire cuire votre steak de mammouth pour le dîner? Je suis très clair. Je préfère avoir autour de moi une personne qui me dira comment réussir ma flambée que toute une bande qui m'expliquera tout ce qu'il faut éviter de faire car cela ne marche pas. Vous pourrez me citer Edison. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Vous pourrez me parler du lièvre et de la tortue, mais ce que la fable oublie de raconter, c'est que chez la majorité des lièvres, la sieste n'est pas au menu. Alors oui, il est vrai que nous avons dans l'Hexagone ce biais culturel. Les Français ont de l'empathie envers les losers et de la jalousie envers les winners. Mais à tout prendre, je préfère la peur d'échouer à la peur de réussir. L'erreur est un droit et en aucun cas un devoir. Encourager le droit à l'erreur est une stratégie de loser. L'erreur, il faut seulement l'autoriser une fois.
Happy Boulot, le lab.
Jeanne est de retour en 4 minutes. Jeanne Spicarolène aujourd'hui avec notre invité qui bouscule le recrutement.
Oui, Erwan, aujourd'hui nous sommes avec Samuel Tamagno. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint de Morgan Phillips Group, le cabinet de recrutement et gestion de talent. Vous avez une vision moderne du recrutement justement. Et pour vous, il faut ouvrir ses chakras et arrêter de recruter toujours les mêmes profils par réflexe, Samuel.
Oui, parce que c'est effectivement le sujet qui... ça fait quand même quelques années que je fais ce métier et c'est effectivement un sujet important dans la mesure où beaucoup de nos clients travaillent avant tout sur l'expérience du candidat et nous, on essaie de les faire évoluer bien évidemment sur la partie expérience et donc ce qu'on appelle les hard skills, plus aussi sur la partie soft skills, puisque aujourd'hui, un bon manager, puisque c'était un petit peu le débat de l'émission précédente, un bon manager, c'est un manager qui a des soft skills. C'est la capacité à aller chercher à la fois une partie, on va dire, plus basée sur tout ce qui est ouverture de son esprit, une capacité d'agilité, une capacité de flexibilité, de leadership aussi, pour faire de la gestion de projet, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande.
Et comment
Samuel, Samuel Tamagno, on parle, je crois, du syndrome du scarabée, qui est le biais cognitif inconscient qui inciterait les dirigeants et managers à privilégier les profils qui leur ressemblent.
Bien sûr.
Aujourd'hui, il faut effectivement lutter contre ça, mais en fait, il faut se faire violence, parce que souvent, quand on recrute, bah, on prend des gens avec qui on a un feeling, une affinité, qui sont peut-être un petit peu comme nous, qui ont la même personnalité. Et donc, faut se détacher de ça.
C'est un peu le syndrome du copier-coller.
Bah, voilà. Oui.
Il y a 10 ans, je sortais d'un cabinet d'audit, donc allez me chercher, moi, il y a 10 ans. Effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, faut sortir de ça. Alors, le marché nous aide à sortir de ça. Puisqu'il y a quand même une forte pression aujourd'hui et le candidat a la main sur le marché. Donc ça, c'est un point très, très, très intéressant. Ce qui oblige le RH aussi à être un peu plus inventif. Mais ça veut dire que lui-même, en interne, il doit bousculer les opérationnels qui ont tendance à faire ce copier-coller. Ouais. Donc, en fait, notre rôle et notre job premier, c'est de mettre en relation ces candidats qui sont un peu différents ou parfois on a notre candidat joker. Ouais. Écoutez, rencontrez-le.
Voilà. Il faut s'y mettre à plusieurs aussi, peut-être, pour recruter, plutôt que ce soit une personne qui fasse le recrutement, peut-être déjà être
oui,
deux, ça peut
et le RH, généralement, il est très intéressé par ces profils un petit peu atypiques, puisqu'on lui demande généralement de faire du copier-coller. Quand il a des profils atypiques, il doit les vendre, effectivement, en interne. Mais très souvent, en fait, c'est ce candidat, en fait, qui reprend la main.
Mais du coup, quand on parle du coup de ne pas avoir d'a priori sur le parcours, sur l'origine, le sexe, ça peut justement être sur l'origine ou le sexe. Là, on parle plutôt de discrimination. Comment on fait pour lutter contre ça et pourquoi pas opter pour un CV anonyme dans ce cas-là?
Alors, on peut opter sur le CV anonyme. Après, c'est aussi l'inclusion. C'est-à-dire promouvoir la diversité au sein de l'entreprise. Effectivement, le CV anonyme est une idée. Et nous, ce qu'on avait développé, ce qu'on développe aujourd'hui sous la bannière Fight, qui est notre marque Middle Management, en fait, c'est faire des vidéos. Parce que vidéo, finalement, vous vous présentez. Si vous dites que vous parlez anglais, que pendant 1 minute 30, vous êtes capable de tenir une discussion en anglais, vous parlez vraiment l'anglais. Donc, en fait, on se base avant tout sur les compétences et on oublie effectivement ce CV qui est parfois discriminant.
Et dans la pratique, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez, que vous aidez à recruter, sont satisfaites de cette manière de faire?
Alors, les entreprises sont pragmatiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pourvoir les postes. Mmh. Et dans un marché où, aujourd'hui, on a quand même des gros soucis trouver à la fois des compétences à peu près aussi bien sur les jeunes diplômés mais aussi sur les gens plus seniors, effectivement là on rentre dans une logique où l'entreprise a tout intérêt en fait à promouvoir ce type de personnes. Mais encore faut-il que le RH et les opérationnels jouent le jeu. Donc en fait je pense que c'est une opération réussie gagnante à trois.
Plus de 5000 clients aujourd'hui, vous accompagnez des grands groupes.
Français et étrangers, alors des groupes du CAC 40, des ETI, des entreprises un peu plus aussi à de taille réduite.
Merci beaucoup d'être venu parler de ça et nous présenter les actions de Morgan Philips Group dont vous êtes directeur général adjoint Samuel Tamagno. Merci d'avoir été l'invité d'Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Jeanne, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est à retrouver en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo Elban qui était en régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, soyez heureux, au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.